Cette rencontre avec le pape me tenait à cœur depuis plusieurs mois, au vu de la symbolique très forte qu'elle comporte. Et par les temps qui courent, qui sont des temps très difficiles, des temps tragiques, au lendemain des attentats que nous avons vécus en France, mais même à travers le monde entier, il était important qu'il y ait un message très fort qui soit envoyé aux fidèles des différentes religions pour ne pas tomber dans le piège qui nous est tendu par les groupes terroristes qui veulent monter les religions les unes contre les autres, monter les communautés les unes contre les autres. Et cette rencontre avec le pape vient couronner justement toute cette démarche de relance de cette dynamique de fraternité, cette dynamique de concorde que nous vivons en France entre chrétiens et musulmans.
Les rencontres avec les autorités catholiques françaises, que ce soit les évêques ou les autorités locales, les prêtres, ne suffisent pas. Pour vous, c'était important d'aller à la tête de l'Église catholique ici à Rome?
Les rencontres avec les responsables de la Conférence des évêques de France sont continues, sont d'une excellente qualité. Nous sommes regroupés au sein de ce que nous avons appelé en France la Conférence des responsables de culte en France, dans laquelle tous les responsables de culte sont réunis. Et notamment, donc moi-même, j'y suis en tant que responsable et représentant du culte musulman, et Monseigneur Pontier en tant que responsable de la Conférence des évêques de France. Donc il y a un dialogue apaisé, un dialogue continu qui s'est instauré entre nous. Mais je pense que la rencontre avec le pape donne une nouvelle dimension, une autre dimension à cette rencontre, à cette symbolique du dialogue. Et je pense que c'est un message très fort qui peut toucher tous les fidèles et pas seulement les relations entre responsables, que ce soit côté chrétien ou côté musulman.
Du point de vue des autorités musulmanes que vous représentez, on a l'impression que votre voix ne porte pas. Comment vous le percevez déjà en tant que président du CFCM et surtout comment y remédier?
Effectivement, il y a un certain scepticisme qui peut parfois s'exprimer ici ou là concernant, je dirais, les différentes prises de position que proclame le CFCM. Nous sommes toujours surpris du fait qu'il y a encore certains de nos compatriotes non musulmans qui disent que les musulmans de France ne s'expriment pas assez, ne prennent pas des positions claires, alors que le Conseil français du culte musulman a condamné systématiquement tous les actes de violence ou de terrorisme d'où qu'ils viennent, et notamment quand ils se réclament de la religion musulmane. Nous l'avons crié haut et fort, nous nous sommes exprimés sur les médias, sur les chaînes de télévision, sur les radios, sur les journaux. Et malgré ça, il y a malheureusement la perception de certains de nos concitoyens qui disent pas assez. Et donc, je pense qu'il faut jamais se lasser, justement, pour condamner haut et fort ces actes barbares qui ne peuvent se réclamer d'aucune valeur humaine ou d'aucune, et encore moins d'une valeur religieuse. Je pense que c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, et il faut effectivement avoir des actes symboliques pour pouvoir toucher le maximum de nos compatriotes au sein de la société française. D'où la rencontre que le CFCM a organisée au lendemain des attentats du 13 novembre dernier. Dans quelques jours, nous allons malheureusement commémorer un an après les attentats du Bataclan. Et donc ces attentats ont eu lieu le 13 novembre et le 29 novembre, le Conseil français du culte musulman a rassemblé à l'Institut du monde arabe plus de 400 responsables de mosquées, de grandes mosquées, de fédérations, d'associations qui ont proclamé haut et fort leur rejet de la violence, leur rejet du terrorisme et leur attachement aux valeurs de la République, aux valeurs de démocratie, à l'égalité hommes-femmes, à l'intégration des jeunes et des femmes au sein de la société. Et donc c'était un acte symbolique, la proclamation dans cette journée symbolique du 29 novembre 2015, ce manifeste citoyen des musulmans de France, qui, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, qui a clôturé cette belle rencontre, a dit que c'était une proclamation d'amour des musulmans de France à la République et à la France. Donc c'était des mots très très forts et je pense que ces mots ont touché nos compatriotes. Il y a eu également au lendemain de l'assassinat tragique du prêtre, le père Jacques Hamel, en plein messe à Saint-Étienne-du-Rouvray, Et le CFCM a appelé, là aussi dans un acte symbolique très fort, a appelé l'ensemble des musulmans de France à se joindre à la messe du dimanche suivant. Et donc il y a beaucoup de fidèles de base, des hommes, des femmes qui se sont déplacés. Il faut bien sûr souligner qu'ils ont été accueillis les bras ouverts en toute fraternité par les responsables et les représentants des catholiques de France. Et je pense qu'avec ces actes symboliques, effectivement, nous pouvons marquer les esprits, toucher nos compatriotes et essayer de dépasser ou de casser ce scepticisme qui peut s'exprimer ici ou là.
Au-delà de ces actes, au-delà de ces paroles symboliques, de ces gestes qui ont été appréciés notamment par les catholiques français, qu'est-ce que vous pouvez, vous, en tant qu'autorité légale du culte musulman en France, pour peut-être mieux contrôler cette fois les imams et les mosquées qui sont sur le territoire français?
Moi, je pense que le mot « contrôler » n'est peut-être pas approprié, parce que l'expérience a montré que ces jeunes qui ont malheureusement basculé dans la violence, voire dans le terrorisme, ne sont pas passés par des mosquées ou n'ont pas été, je dirais, des fidèles assidus auprès de tel ou tel imam. Je pense que la radicalisation, et ça, ça a été démontré à la fois par les études des autorités françaises, du ministère de l'Intérieur, mais également du Conseil français du culte musulman, la radicalisation se fait sur les réseaux sociaux, sur Internet, et pas du tout dans les mosquées ni à travers des imams. Ceci étant dit, le rôle de la mosquée et le rôle des imams sont très importants. Nous avons mis en place au mois de mai dernier un conseil religieux qui réunit des théologiens, des imams, des aumôniers de prison pour réfléchir justement sur les meilleures manières de prévenir et de faire de la prévention de la radicalisation des jeunes. Nous avons notamment commencé à travailler sur ce qu'on appelle l'élaboration d'un contre-discours, puisque les discours djihadistes qui circulent sur les réseaux sociaux dévoient un certain nombre de textes sacrés, ils instrumentalisent un certain nombre de versets du Coran ou de hadiths ou de paroles du prophète, et nous voulons apporter une dimension ou une approche théologique pour démonter cet argumentaire qui est utilisé, qui parfois peut séduire, entre guillemets, certains de nos jeunes qui sont parfois malheureusement n'ont pas assez de références, n'ont pas assez de recul, ne sont pas immunisés contre ce type de discours. Et donc ce travail-là, nous l'avons commencé, c'est un travail de fond qui va demander du temps, mais c'est un travail nécessaire avec des théologiens et des imams. Donc ce travail, nous sommes en train de le faire et nous voulons mettre à disposition de nos imams, de nos aumôniers dans les prisons, cet argumentaire, je dirais théologique, pour démonter et déconstruire l'argumentaire djihadiste. Ainsi, ils seront mieux armés, entre guillemets, pour répondre aux interrogations de jeunes et pour leur donner la véritable signification d'un certain nombre de concepts qui sont dévoyés, tels que celui du djihad ou celui de la hijra, qui est le fait d'abandonner sa propre terre natale ou son pays natal pour aller vers un pays pseudo-musulman ou un état pseudo-islamique. Et donc cet argumentaire-là permettra effectivement de donner les moyens à nos imams et aux mosquées et aux aumôniers pour mieux prévenir cette radicalisation religieuse.
Cette radicalisation, elle passe notamment par Internet. Est-ce que vous comptez également être davantage présent sur Internet pour pouvoir mieux répondre à certaines questions que pourraient se poser certaines personnes ou pour aller chasser sur les terres des djihadistes ?
Non, nous savons aujourd'hui que l'un des vecteurs de transmission de l'éducation religieuse ou des valeurs ne se fait plus malheureusement via la cellule familiale avec les parents, ne se fait pas forcément à travers la mosquée en passant par l'imam ou par des éducateurs sur le plan religieux, mais il faut investir les réseaux sociaux et justement l'élaboration de ce contre-discours, une fois que nous aurons le contenu, nous le mettrons dans un contenant qui soit accessible aux jeunes sur YouTube, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter. Donc nous voulons envahir et investir ces vecteurs de communication pour pouvoir toucher la plus grande frange des jeunes.
Est-ce que ça passe, selon vous, par une sorte de réflexion au niveau de l'ensemble de la communauté musulmane mondiale, du point de vue aussi théologique, de son rapport à la modernité, de son rapport aux États, à la séparation des pouvoirs?
Je pense que la problématique, effectivement, à laquelle nous sommes confrontés n'est pas forcément spécifique à la France. Je pense que d'autres pays tels que la Belgique, l'Allemagne, ou même des pays musulmans comme le Maroc, la Tunisie, la Libye, etc., sont confrontés à cette problématique-là. Et je pense qu'il peut y avoir une entraide entre ces différents pays pour élaborer justement des moyens efficaces de prévention de la radicalisation religieuse. Donc il peut y avoir effectivement un partage d'expériences, une capitalisation sur les expériences des uns et des autres. Il y a notamment ce qu'on appelle les centres de déradicalisation qui sont en train de se mettre en France. Il y a eu déjà des expériences qui sont plutôt positives dans les pays scandinaves, je crois notamment au Danemark. Donc il faut essayer de généraliser un peu un certain nombre de bonnes pratiques ou d'expériences qui réussissent à droite ou à gauche. Maintenant, pour pouvoir toucher la jeunesse française, il faut aussi partir du contexte français et des spécificités françaises pour élaborer un discours qui puisse être audible et crédible auprès des jeunes français de confession musulmane. Donc la problématique, elle est globale. Il faut apporter une solution globale, une réponse globale. Mais il peut y avoir une adaptation spécifique pays par pays pour mieux coller à la réalité du terrain.